affronter une élection présidentielle comme couvrir un conflit qui éclate à l'autre bout de la planète. Vous l'avez entendu sur RMC, vous avez peut-être découvert son visage sur BFM TV, il a incarné également le magazine Capital sur M6, et entre les sirènes parfois envoûtantes du show business, c'est vrai, et l'amour inconditionnel du terrain, lui il a fait le choix de passer le moins de temps possible sous le feu des projecteurs pour raconter le monde qui nous entoure. Et ce grand spécialiste de Fukushima réalise en ce moment même, dans une enquête passionnante, il raconte les secousses d'une campagne présidentielle. Bonjour François-Xavier.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, c'est un plaisir de vous recevoir ici.
Pareillement.
TF1 diffuse le deuxième épisode de la bataille de l'Elysée, c'est ce lundi 17 janvier à 23h10 sur TF1. Donc c'est une série documentaire dans laquelle vous vous invitez dans les coulisses de la campagne présidentielle avec deux autres journalistes qu'on va citer, Elisa Hélin et Claire Lessing.
Qui font un super boulot toutes les deux, tout à fait.
Alors c'est l'occasion de voir les stratégies des candidats pour s'envoler dans les sondages, mais aussi...
Il y a eu un... Joanne Faggianelli, alors à l'époque on enregistrait le présentateur de Gulli. Et tu vois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui est un journaliste touche-à-tout capable de raconter une élection présidentielle comme couvrir un conflit qui éclate à l'autre bout de la planète. Vous l'avez entendu sur RMC, vous avez sans doute découvert son visage sur BFM TV. Il a présenté le magazine Capital sur M6 et entre les sirènes parfois envoûtantes du show business et l'amour inconditionnel du terrain, eh bien lui il a fait le choix de passer le moins de temps possible sous le feu des projecteurs pour raconter le monde qui nous entoure. Et c'est ce que ce grand spécialiste de Fukushima réalise en ce moment même dans une enquête passionnante qui raconte les secousses d'une élection présidentielle pas comme les autres. Bonjour François-Xavier Ménage.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un véritable plaisir de vous voir ici. TF1 diffuse le deuxième épisode de la bataille de l'Elysée. Donc c'est ce lundi, c'est ce soir à 23h10. C'est une série documentaire dans laquelle vous vous invitez dans les coulisses de la campagne présidentielle avec deux autres journalistes, Elisa Hélin et Claire Lessing. L'occasion de voir les stratégies des candidats pour s'envoler dans les sondages, mais aussi les rapports qu'ils entretiennent avec les journalistes, la façon dont ils appréhendent la presse. La première question que je voulais vous poser, est-ce que la bataille de l'Elysée, c'est un peu la déclinaison de Baron Noir dans la réalité?
On a trop entendu cette blague et cette anecdote pour que je vous réponde non. Oui, c'est vrai, même si, franchement, je dois être honnête, on passe notre temps à dire, enfin pas nous évidemment, mais dès que vous tendez un peu l'oreille, oui la politique c'est dégueulasse, oui ils sont tous là pour se faire des coups bas, il y a aussi des programmes, il y a aussi un investissement et un marathon que tous sont en train de courir, les candidats que nous ne connaîtrons jamais, dans leur chair, dans leur tête. D'ailleurs la plupart quand ils arrêtent après disent qu'ils sont cassés et que leur corps ne tient plus. Donc c'est aussi ce parcours-là qu'on veut montrer derrière le rideau. C'est un investissement de tous les instants. On peut être contre un candidat, mais on est obligé d'avouer une chose, c'est qu'ils font quelque chose de surhumain, cette bataille pendant plusieurs mois jusqu'au premier et deuxième tour.
Alors s'inviter dans les coulisses de campagne présidentielle... Oula, alors pardon, il y a eu visiblement
petit esprit boîte de nuit.
C'est le DJ qui se trouve en régie qui apparemment est en train de faire des folies avec les platines. Je repose ma question à François-Xavier Ménage. C'est vrai que vous invitez dans les coulisses d'une campagne présidentielle, là où les caméras ne peuvent habituellement pas aller. Pardon, je suis désolé, c'est fou cette histoire. Quel degré, vous, de plaisir vous avez eu?
Alors, le degré de plaisir, même si on n'est pas en train de jouer avec les platines quand on est avec les candidats, mais non, le plaisir, journalistiquement, il est immense. D'abord parce qu'on a les moyens de bosser, hein, qui ont été mis sur la table par le groupe TF1 qui a voulu qu'on retrouve ce qui fait l'essence de TF1 en matière d'info, c'est-à-dire du reportage. C'était l'idée de Thierry Tullier, le patron de l'info, et de Pascal Pinning qui gère les magazines d'info du groupe. Et donc, voilà, on avait carte blanche pour bosser, pourvu que... on remplisse deux missions. La première, c'est montrer comment les candidats, quels qu'ils soient, rencontrent la France, parce que c'est une élection, donc forcément c'est la rencontre avec les électeurs, et comment on fabrique un candidat derrière le rideau. Et ça, nous on se bat en permanence pour obtenir ces accès exclusifs, pourvu que ce ne soit pas de la pub. Parce que le candidat qui lève le petit doigt pour dire « Venez, on va vous montrer à quoi ressemble une réunion, vous venez deux secondes, hein, et puis on boit le café, ensuite vous fermez la porte, et puis nous on bossera et vous, vous resterez derrière la porte », ça marche pas. Ça marche pas pour eux, ça marche pas pour nous, et ça marche surtout pas pour le téléspectateur. Donc, on se bat avec nos armes de journaliste, on n'avance pas masqué, mais on demande à avoir de la coulisse. Pour l'instant, on y arrive. Mais voilà, c'est un investissement permanent avec Elisa, Claire et Guylaine Chenu, qui gèrent aussi, qui pilotent les quatre épisodes qu'on est en train de mettre en boîte. Mais voilà, en bossant avec cette équipe resserrée, on arrive pour l'instant à faire des petites étincelles et on va continuer comme ça.
Documentaire absolument passionnant. Je rappelle que malgré tous les bugs techniques que nous rencontrons ce matin, nous sommes en direct, hein, sur le Figaro.fr et la page YouTube de TV Magazine avec François-Xavier Ménage. Est-ce que vous avez regardé le tout premier épisode de la bataille de l'Elysée? Quel regard portez-vous sur les sujets qu'il signe dans le 20h de TF1? Est-ce que vous aimeriez le retrouver aux commandes d'un grand magazine à la télévision? N'hésitez pas, toutes vos questions, toutes vos remarques. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah.
Bonjour Damien et rebonjour.
Rebonjour.
Parti avec les audiences d'hier soir, quelle chaîne est arrivée en tête?
Eh bien c'est TF1, grâce au film de Luc Besson, Anna, 4 400 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente quasiment 22% du public, donc un très joli score qui classe TF1 loin devant, notamment France 3 qui suit avec la fiction Meurtre en eau trouble, 3 600 000 personnes comptabilisées et 17% de part de marché. Et sur la troisième marche du podium, eh bien c'est M6 avec un magazine que vous connaissez bien François-Xavier, Capital. Eh bien, 2 300 000 curieux ont regardé le magazine désormais animé par Julien Courbet et ça représente 11% de part de marché. Et du côté de la TNT, eh bien, c'est Arte qui s'en sort pas mal grâce au film Sueur froide, 1 100 000 cinéphiles et 5% de part de marché devant le film d'Hitchcock.
Vous arrivez encore de regarder le magazine Capital, François-Xavier?
Oui, je le regarde encore, bien sûr, mais j'ai adoré ces deux années et j'ai encore des copains là-bas qui font du super boulot. Donc ouais,
quand vous regardez cette expérience
journaliste dans le rétroviseur, quels sentiments vous envahissent? Vous êtes nostalgique, vous regardez ça avec curiosité parce que vous faites quelque chose qui n'a rien à voir aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Non, mais moi j'ai appris plein de choses pendant 2 ans et je me suis amusé. Mais vous savez, quand je présentais Capital, les moments où je m'amusais le plus, c'est quand je faisais moi-même des reportages pour l'émission. Donc à un moment, il faut s'écouter et c'est sur le terrain que je m'amuse le plus.
Et vous, vous êtes écouté, ouais. Effectivement. On poursuit ces news médias avec Jean-Jacques Bourdin qui se trouve bien dans la tourmente en ce moment.
Oui, c'est une information révélée par nos confrères du Parisien samedi matin. Le journaliste est visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle. Elle a été déposée mardi dernier. La plaignante, qui souhaite conserver l'anonymat dans l'immédiat, est une ancienne journaliste de BFM et RMC, aujourd'hui âgée de 33 ans. Alors les faits se seraient déroulés en 2013 à Calvi en Corse, lors d'un tournoi de pétanque où plusieurs personnalités étaient invitées à jouer. Et vers 6h du matin, dans la piscine d'un hôtel où elle était logée, eh bien Jean-Jacques Bourdin serait venu la rejoindre et l'aurait saisie par le cou pour tenter de l'embrasser à plusieurs reprises. Alors l'intéressé nie les faits, mais BFM TV et RMC ont ouvert une enquête en interne. La Société des journalistes se demande si c'est très judicieux de le garder pendant le temps de l'enquête à l'antenne, car Jean-Jacques Bourdin a fait son retour ce matin à la tête de l'interview politique. Alors Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, s'est exprimé à ce sujet. Il dit qu'il n'y a rien qui l'empêche de faire son travail.
François-Xavier, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez travaillé sur RMC et BFM TV, vous avez croisé Jean-Jacques Bourdin. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris cette information ce week-end?
Comme vous, j'ai évidemment aucun élément sur ce dossier, donc c'est difficile de se prononcer de quelque sorte que ce soit... J'ai rien à dire, si ce n'est que j'ai évidemment de l'estime professionnelle pour Jean-Jacques, mais là, on parle d'autre chose et j'ai aucun élément.
Allez, on termine
termine ces infos médias avec tout autre chose, un coup de gueule. Celui-là, il a l'habitude et ça s'est passé sur le service public.
Oui, c'était samedi soir sur France 2 dans On est en direct, présenté par Laurent Ruquier. Eh bien, l'animateur s'en est pris à Anne Hidalgo. Il n'a pas supporté en fait une interview de la maire de Paris et candidate à la prochaine élection présidentielle. C'était dimanche dernier sur CNews face à Jean-Pierre Elkabbach. Elle a raillé Éric Zemmour et Marine Le Pen qui ont du mal à obtenir les 500 parrainages qui, pour participer à l'élection de début avril. Tant pis pour eux, a-t-elle déclaré. Eh bien, regardez la réponse de Laurent Ruquier.
Fort, Madame Hidalgo, parce qu'on peut dire bien des choses sur Éric Zemmour et Marine Le Pen, et je sais que je ne suis pas le dernier, on en dira tout à l'heure à propos encore de la bêtise qui a pu sortir Zemmour aujourd'hui, mais quand même, que Madame Hidalgo dise qu'ils ne méritent pas d'avoir leurs 500 signatures, il faut le faire quand même. À la limite, on peut le penser tout bas, mais de là à le dire, surtout quand elle, on sait qu'elle aura évidemment sans problème ses 500 signatures grâce à la structure du Parti Socialiste, alors qu'elle va faire moins de 5%, en tout cas pour l'instant, elle fait moins de 5% dans les sondages, et que sa campagne risque peut-être même de ne pas être remboursé. Alors là, franchement, vaut mieux se taire dans ces cas-là, Madame Hidalgo. Et on comprend mieux pourquoi les Français ont du mal à vous suivre. Si elle continue comme ça, elle va finir derrière Poutou, Nathalie Arthaud, Montebourg et Fabien Roussel.
Alors Montebourg, on va...
Voilà. Laurent Ruquier prévient. Alors à gauche, seule Christiane Taubira trouve grâce à ses yeux. Il a trouvé son discours de samedi où elle a officialisé sa candidature. Eh bien, très bon.
François-Xavier, que dans votre série documentaire La bataille de l'Élysée, vous suivez aussi la gauche. D'ailleurs, dans le deuxième épisode, on verra notamment Fabien Roussel, on verra également Jean-Luc Mélenchon. Quel regard vous portez sur leur manière d'appréhender la campagne présidentielle? On rappelle qu'ils sont 7 candidats aujourd'hui quand même pour se partager 25% du gâteau.
Plus la 8e, donc Christiane Taubira, dont on montre effectivement la satellisation dans l'épisode de ce soir. Non, mais je vous répondrai sur les parrainages. On a d'ailleurs une réponse d'Éric Zemmour dans le cadre d'une réunion privée à huis clos avec Philippe de Villiers, et on voit Éric Zemmour dire comment faire pour que moi j'obtienne des parrainages, et Philippe de Villiers lui donne des conseils de terrain. Ouais. Et sur Anne Hidalgo, aucun jugement politique bien sûr de ma part, mais journalistiquement, ce qui est certain, c'est que vous verrez une séquence assez étonnante où la candidate, qui est donc évidemment secouée dans les sondages, secouée en interne, dit, et c'est saisissant, dans une réunion à huis clos, maintenant, et vous verrez la gestuelle qui est la sienne, maintenant on doit faire bloc. Sous-entendu, ça n'était pas le cas jusqu'alors. Et autour de la table, vous avez pourtant des lieutenants, des fidèles. Donc ça dit aussi quelque chose de la stratégie. Et elle l'est aussi, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi, au-delà, et c'est, je pense, intéressant à regarder dans le documentaire ce soir, il y a quand même un climat général qui n'est pas très serein. Et vous verrez un Jean-Luc Mélenchon qu'on a connu plus combatif, qui est encore combatif, évidemment, à la tribune, mais qui, dans le cadre de cette séquence, il est seul dans une pièce mal éclairée, en train d'écrire un discours qu'il va ensuite donner aux Antilles, on est en décembre, et qui dit, je pense avec une vraie franchise, « Je n'ai jamais connu un climat aussi glauque. » La manière, les mots, le visage qui sont les siens quand il évoque ça, je pense que c'est saisissant, ça dit beaucoup de choses de la campagne.
Et votre documentaire dit énormément de choses aussi sur les ambitions des candidats, ça s'appelle « La bataille de l'Élysée », on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. La bataille de l'Elysée, donc c'est le nom de la série documentaire que vous pilotez en compagnie de deux autres journalistes, Elisa Hélin et Claire Lessing. TF1 diffuse le deuxième épisode à 23h10 ce lundi. Et cette immersion, c'est vrai, on l'a rappelé, elle est assez captivante car vous êtes parvenu à vous inviter dans les QG de campagne des candidats déclarés dans la course à l'élection présidentielle. Alors déjà, comment vous avez fait? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure pour convaincre justement toutes les équipes de campagne. Ça doit être quand même un travail qui s'étale sur plusieurs mois. C'est pas évident.
Alors,
quand même. Réunion en interne, comme vous l'avez dit.
D'abord, la décision est prise par TF1 juste après l'été. Et là, on lance le plan de guerre. On va voir tous les QG et on dit aux candidats directement ou à leurs équipes qui gèrent la com, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on aimerait. Maintenant, comment faire pour avancer le plus efficacement possible? Personne n'a fermé la porte. Certains ont été un petit peu plus longs pour nous dire comment on pouvait bosser ensemble. Et quand je dis bosser, c'est évidemment 100% journalistique. Je me répète, mais on n'avance pas masqué. On avance avec nos armes de journaliste. On n'est pas là pour faire de la com. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas non plus des petits innocents. Moi, je ne m'appelle pas Alain Duhamel, mais j'ai déjà fait 3 présidentielles. Et ce que je sais, et je ne suis pas journaliste politique, hein, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a plein d'obstacles et il y a un poids considérable de la communication politique aujourd'hui. Et donc, on le voit, certains candidats aujourd'hui vont même pouler. Hein. Pouler, ça veut dire c'est une caméra qui filme et ensuite on distribue à tous les copains. C'est quand même très compliqué. Et dans ce cadre-là, nous, on a dit, on avance, on veut des séquences clés, on veut des réunions stratégiques, on veut voir le candidat en train de se fabriquer quand, justement, il est en coulisses. Et après, bah, c'est de la négociation tous les jours, le week-end, tard le soir, des SMS. Mais on avance toujours avec nos armes de journalistes. On a le poids aussi, je pense, quand même, qui est important de TF1, qui diffuse cette série documentaire.
C'est un gros argument, ça. Lorsque
bien
vous
sûr,
arrivez avec
c'en est un, évidemment, avec, on le sait, un déploiement de TF1 pour la présidentielle sur le 20h, avec des émissions spéciales. On l'a vu en décembre avec l'émission autour d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il y a une montée en puissance. Et puis, bah, nous, on s'insère là-dedans en faisant du reportage. Parce qu'il y a quand même deux petits défis, c'est que quand vous faites un documentaire politique, objectivement, même si la rareté des témoignages est toujours à souligner, mais quand vous mettez quelqu'un les fesses sur un canapé pour nous raconter ce qui se passait il y a 5-10 ans, c'est pas la même chose qu'un candidat qui accepte que l'on livre des coulisses pendant la campagne.
Des secrets de fabrication.
Voilà, parce que les secrets de fabrication, quand vous les diffusez après l'élection, c'est intéressant, mais les montrer pour que, et c'est ça le plus important, les téléspectateurs se fassent leur opinion, qu'on puisse mettre en perspective tous les candidats sur une durée d'une heure, après chacun se fait son opinion, on n'est pas là pour donner des bonnes et des mauvaises notes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce dispositif-là, il n'existe que chez TF1, avec les moyens qui sont mis sur la table, les moyens sur le terrain, et comme ça, on donne des perspectives. Et puis, dernière chose, on n'allume pas le robinet pour que chaque candidat s'exprime, et puis après, démerdez-vous avec ça. On contextualise, on explique quand il faut, on accompagne, on fait notre boulot en clair et le faire dans le cadre d'une présidentielle en séquençant, un peu comme Netflix, un épisode par mois, je pense que c'est d'abord une grande chance de pouvoir le faire et je pense pour les téléspectateurs très éclairant de le regarder.
J'imagine que les équipes de communication étaient très attentives à vos déplacements dans les locaux de campagne. Est-ce qu'ils vous ont suggéré de couper au montage certaines séquences que vous avez pu capter et qui n'étaient pas forcément désirées par les équipes?
Alors c'est là aussi où vous voyez, je me fais mon propre avocat. C'est très compliqué plus que jamais, je pense, de faire des séquences politiques qui disent quelque chose avec des candidats, mais on y arrive. À l'opposé, en 2022, en tout cas, ça n'est pas arrivé pour nous pour l'instant, vous n'avez plus des communicants qui disent « ça vous mettez à la poubelle, je veux voir le montage, je veux savoir quel mot vous avez employé pour parler du candidat ou de la candidate ». Non, ça n'existe plus. Ils savent quel est notre périmètre, Dieu merci d'ailleurs, et on reste évidemment seul maître à bord. Mais en revanche, oui, c'est de la négociation permanente, bien sûr.
Annonce, effectivement. Sarah, on retourne du côté des internautes.
Oui, donc nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et je vais prendre cette question de Benjamin qui se demande comment ont réagi les candidats et leurs communicants à la vue du premier épisode déjà diffusé sur TF1.
Alors, la plupart n'ont pas envoyé de SMS à l'issue de la diff, donc déjà c'est voilà. Après,
oui, parce que vous les suivez quand même sur plusieurs mois. Donc
on les suit
pas
sur
être
plusieurs
en
mois.
Termes.
Non, moi je vais vous dire sans donner aucun nom, mais j'ai reçu moi par exemple, quelques petits SMS pas très sympas de certains proches de candidats qui disaient « Franchement, vous n'avez pas été tendre avec nous. Écoutez, je continue à penser qu'on a fait notre boulot. » Et d'ailleurs, les portes ne se sont pas fermées. On continue à bosser avec eux. Mais oui, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais une fois de plus, on n'est pas un tribunal. On est là pour raconter les choses telles qu'elles se passent pour les candidats qui, et c'est vrai, il faut l'avoir en tête, jouent gros, jouent très très gros quand ils ouvrent une porte et qu'ils disent « Vous allez voir comment on bosse. »
Ouais. C'est vrai que cette question est très intéressante parce que vous devez ménager les susceptibilités. Comme vous suivez ces candidats sur plusieurs mois, vous pouvez imaginer que le premier épisode va en vexer certains et que vous allez vous fermer ensuite des portes. C'est une crainte que vous avez, ça? Justement, au montage, vous vous dites « Là, le risque, c'est qu'on nous ferme définitivement la porte et que derrière, on ne puisse pas continuer notre série documentaire. »
Évidemment que c'est compliqué de se dire qu'une porte puisse être fermée. Après, si une porte se ferme, on en trouvera d'autres. Déjà, premier point. Et puis, deuxième point, on n'est pas là pour leur faire ni plaisir, ni leur taper dessus de manière gratuite. On est là pour expliquer ce qui se passe et quelles ont été les séquences politiques des dernières semaines. Parce qu'il faut revenir à l'essentiel, celui qui allume sa télé ce soir, qui est perdu, et on peut le comprendre, par rapport à ce qui se passe à gauche ou à droite, eh bien, je pense qu'on lui aura raconté, c'est un récit, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et qu'il aura, ce téléspectateur, les idées un petit peu plus claires, même si j'ai bien conscience que c'est compliqué. Raconter ce qui se passe à gauche en ce moment, c'est un sacré feuilleton. On y arrive, on a quelques petites clés pour que justement tout ça soit bien expliqué. Et voilà, de ce côté-là, je pense qu'on a rempli la mission.
C'est vrai que ce deuxième épisode est extrêmement riche. Hein. Vous filmez, on va donner quelques exemples. Vous en avez parlé tout à l'heure, Philippe de Villiers en train de coacher Éric Zemmour pour obtenir ses 500 parrainages. Vous filmez également Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au moment où ces deux candidats sont en train de rédiger leur discours. Quel est selon vous le moment le plus marquant de ce deuxième épisode? Si vous deviez en choisir un seul, ce serait lequel?
Il y en a plusieurs. Je pense que je vais vous en donner deux. D'abord, on a un moment de vérité assez incroyable à gauche où le patron du PS reçoit les deux représentants de la primaire de la gauche. Vous savez, c'est ce grand mouvement pour lancer un référendum géant qui doit normalement avoir lieu fin janvier. Et Olivier Faure met quasiment de la terre sur le cercueil du PS parce que la manière dont il parle du problème à gauche dans les sondages et les mots qu'il emploie, le visage là encore qu'il porte, tout ça est très grave. Alors on voit en tout cas à quel point c'est compliqué en ce moment à gauche, même si, une fois de plus, je vous réponds journalistiquement avec ce qu'on a réussi à filmer.
Et là où c'est intéressant, pardon de vous couper, oui. François-Xavier, c'est qu'il n'aurait sans doute pas eu le même discours sur une interview de France Inter le matin.
Et sur un plateau
exemple.
Télé, exactement.
Là, il en parle sans filtre.
Exactement.
Il est très lucide, en fait.
Il est très lucide, il le dit à d'autres acteurs, entre guillemets, de cette présidentielle. C'est pas devant la caméra, et vous avez tout à fait raison, ça change beaucoup de choses dans les intentions et dans les mots qu'il emploie. Et puis sinon, effectivement, saisissant moment où Éric Zemmour est conseillé par Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui est en vérité présent mais très discret au niveau de sa parole, tout ça est assez compté, hein. Il s'exprime assez peu. Et là, on le voit dans cette réunion stratégique, Éric Zemmour, Sarah Knafo, sa conseillère et compagne, et donc Philippe de Villiers. Et Éric Zemmour, dans un moment de franchise, dit d'abord, ceux qui me parrainent, pourquoi le font-ils? Et comment faire, Philippe, pour que j'obtienne plus de parrainage. Et Philippe de Villiers, qui a fait 9 campagnes, dont 2 présidentielles, déroule ensuite ses argumentaires. On les entendra ce soir à 23h sur TF1. Mais c'est un moment de politique. C'est vraiment un moment de politique. Ça n'est pas fait pour notre caméra. Et je pense que ça éclairera sur la campagne d'Éric Zemmour et le moment de cette campagne pour lui. Parce que vous avez des dénivelés. Il y a des moments où on est en confiance, d'autres où on l'est moins. C'est vrai pour tous les candidats. Il y a la préparation des uns, peut-être une impréparation pour d'autres. Et en tout cas, ça racontera quelque chose de la campagne d'Éric Zemmour à ce moment précis où on se parle.
Allez, on prend une question des internautes.
Oui, je vais prendre la question d'Alexandre. Pourquoi la chaîne a choisi de diffuser ce doc à une heure aussi tardive alors que la présidentielle est dans moins de 3 mois? Vous le regrettez, ça, d'ailleurs?
Je pense que, objectivement, TF1 n'a pas fait de deuxième partie de soirée avec des documentaires en information depuis un petit moment. Donc c'est déjà, moi je trouve, salutaire à tout point de vue
que TF1... Oui, ça aurait pu être sur LCI.
Exactement. Mais, mais d'ailleurs, le documentaire est ensuite diffusé plusieurs fois sur LCI. Mmh. Ça, c'est la puissance de frappe du groupe. Mais non, moi je trouve que 23h, c'est un très bon horaire dès l'instant où voilà, vous avez un prime avec la puissance du prime. Et ensuite, nous, on apporte une autre puissance. C'est, je crois, un récit qui se raconte bien sur une heure. Moi, je considère que c'est pas mal à cette heure-ci. Ouais.
Mais pour quelle raison TF1 a déserté un petit peu le documentaire sur la case du prime? Vous avez connu M6, où il y a beaucoup de documentaires, hein, Zone Interdite, Capital, en prime time. Sur TF1, on n'en voit pas. Des émissions de divertissement, on en a. Des séries, on en a beaucoup. Des téléfilms. Mais des documentaires, on n'en a pas. Vous, en tant que journaliste, vous regrettez ça un petit peu?
Bon, je considère quand même que l'offre d'infos sur TF1, elle est solide. Vous avez quand même des JT qui sont plus puissants que jamais. Vous avez là des documentaires comme ceux qu'on peut faire, 7 à 8. Enfin, là. Je pense que la présence des docs, notamment le week-end, aussi tout l'après-midi sur TF1, c'est une grosse présence. Alors, elle n'est pas aux mêmes endroits qu'M6, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes enjeux et les mêmes promesses, mais franchement, on est vraiment pas à plaindre en matière de demandes et d'informations à l'antenne de TF1. Ouais.
Alors, journalistiquement, François-Xavier, c'est vrai que il est peut-être plus palpitant de s'immiscer dans les bureaux d'Éric Zemmour que de suivre une réunion avec Fabien Roussel, quoique peut-être...
Mais je suis pas d'accord avec vous.
Ah, je sais pas. Mais comment vous êtes répartis les tâches, justement, ouais, avec les deux autres journalistes?
Non, non, avec Claire et Elisa et donc Guylaine Chenu qui pilote tous ces docs, on s'est dit, d'abord, on va pas chez ceux qu'on aime ou qu'on déteste, on va chez tout le monde. On a des règles aussi qui sont celles du CSA, il faut respecter la proportionnalité. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va faire Mathsup et on va tous avoir mal à la tête. Mais non, et d'ailleurs, la séquence du candidat du PC Roussel, elle est incroyable parce que cet homme a décidé, et on le verra à la fin du doc, que sa campagne s'appellerait les jours heureux. Je ne suis pas sûr que ce soit des terminologies qu'on entende dans la bouche de beaucoup de candidats. Et vous allez voir la décontraction apparente qu'est la sienne quand on arrive dans son QG. La manière dont il parle à ses équipes, la manière dont il retrouve copain d'enfance, qui est le fils, marchait. Oui. Et on voit comment... Il n'y a pas beaucoup de candidats qui disent « Salut, poteau !» et qui se prennent dans les bras. Et donc ça, c'est de la politique. Mais ensuite, vous avez une réunion stratégique où, au Parti communiste, on est en train de réfléchir, comme chez Marine Le Pen, on le voit aussi, à la place prépondérante du Covid et d'Omicron. Et là aussi, c'est une autre manière de faire de la politique. Et c'est tout aussi intéressant de voir ça au PC que chez Éric Zemmour. Et on voit des moments de vérité. Et c'est en ce sens que je pense que le doc remplit sa mission.
Combien d'épisodes sont prévus pour cette série documentaire?
4. Il en reste... Donc ce soir, ce sera le deuxième. Il en reste 2 ensuite, en février et puis début mars. Puis après, vous avez ce qu'on appelle le temps d'égalité de parole. Oui. Donc on arrête, parce qu'on ne peut pas faire un documentaire où chacun aurait la même seconde de temps de parole.
Ça vous complique.
Là, c'est plus possible.
Ouais, ça vous complique quand même les choses, le temps de parole, j'ai l'impression. Ah, non,
j'ai dû m'arracher 15 touffes de cheveux, je pense, et mes collègues aussi. Mais écoutez, ce sont les règles, on les respecte et on avance comme ça. Ouais.
Alors François-Xavier, les fidèles du journal télévisé de TF1 vous connaissent bien, puisque vous signez régulièrement des reportages. Est-ce que cette bataille de l'Élysée vous prend tout votre temps et vous écarte du coup de cette tranche d'information, ou bien vous continuez à aller aussi sur le terrain?
Non, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Cela dit, là, je retourne dans quelques heures à la rédac de TF1, parce que ce soir, dans le 20h, Gilles Boulot va passer des extraits de ce documentaire. Donc, dès 20h, vous pourrez voir un petit condensé de ce qu'il y aura ensuite à 23h. Donc là, je vais foncer faire le montage de ce petit résumé. Mais non, oui, on est investi à temps plein. Après, moi, mes copains, ils sont chez TF1. Je suis très content de les retrouver dans 2 mois. Et j'ai la chance de bosser dans une super rédac. Donc, franchement, je vous le dis, j'ai pas un petit billet dans la poche pour parler comme ça, mais c'est ce que je pense. Franchement, aujourd'hui, avoir la chance de bosser dans une rédac qui a les moyens d'aller sur le terrain, ce qui est moi ma passion et ma religion, c'est une chance qu'il faut savoir rappeler. Et alors qu'on s'en prend plein dans la gueule en permanence, nous les journalistes, quand on va sur le terrain, je pense qu'il est important de rappeler qu'on a les moyens pour bosser et qu'on est là pour ramener la vérité telle qu'elle se passe sur le terrain. Donc voilà, rappeler juste ça, c'est fondamental et je suis tellement heureux de le faire parce que je le pense.
Qu'est-ce qui vous galvanise le plus dans les reportages? Est-ce que c'est un reportage, par exemple, sur le café à l'étranger, ou bien est-ce que c'est quelque chose en lien avec l'actualité très chaude en France? Est-ce que vous avez justement une appétence particulière pour des sujets? On a l'impression que vous êtes très généreux, en fait, que vous touchez à tout, comme je le disais tout à l'heure.
C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire pendant plusieurs années du terrain à l'étranger, sur des terrains qui étaient compliqués, des terrains de conflit. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, parce qu'à tout point de vue, c'est intense, bien sûr. Mais j'ai aucun problème à aller faire ensuite le mal logement à Saint-Denis. Et d'ailleurs, un jour, ça m'est arrivé, je vous donne cette anecdote, mais pour le 20h de TF1, j'ai fait une enquête sur le mal logement à Saint-Denis, donc aux portes de Paris, avec des choses vraiment dégueulasse que l'on filmait, qui était à tout point de vue à dénoncer. Et le lendemain, c'est le hasard de ce métier, mais c'est aussi sa beauté, j'allais dans la suite la plus chère des hôtels 5 étoiles à Paris. Donc vous êtes dans une acrobatie permanente, mais je considère aussi que c'est uniquement grâce à ce métier qu'on peut faire ce type d'acrobatie, et que ça vous rend peut-être un peu plus fort journalistiquement après. Mais voilà, même si je pense qu'il est plus important de dénoncer le mal logement que de raconter le prix de la chambre la plus chère de Paris. Voilà. L'info, c'est ça. C'est un petit peu de tout ça. Et quand on a la chance de pouvoir jongler de l'un à l'autre, je pense que, oui, j'insiste, c'est une chance. Ouais.
Allez, on prend la dernière question des internautes.
Ouais, sur le chat, on me demande si vous avez d'autres projets avec le groupe TF1. De quoi avez-vous envie après la présidentielle?
Après ce que je viens de vous dire, si je vous dis un plateau, ça va faire bizarre. Du terrain.
Toujours.
Vraiment du terrain, ouais.
Il y a un sujet en particulier à l'étranger ou...
J'en ai deux. Moi, j'aime évidemment beaucoup raconter le monde tel qu'il se passe en ce moment. Alors, quand on dit des grandes phrases comme ça, mais je suis allé plusieurs fois au Liban, là je suis allé 3 fois au Liban à la fin de cet été et cet automne, et le pays est en train de se déliter à un niveau accéléré. On n'avait jamais vu ça depuis 160 ans, donc je pense que c'est important de continuer à raconter ce qui se passe au Liban. Et puis, des questions d'inégalité m'importe beaucoup. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Grigny, qui est la ville la plus pauvre de France, et voir le boulot qui a été fait par les élus locaux, par ceux qui se battent, et je considère que plus que jamais, il faut qu'on raconte ça aussi. Ouais.
Alors, toute autre chose, François-Xavier, ça se passera le 10 février. Vous investirez un segment, il faut dire, là, vous ne vous attendez pas forcément. Il s'agit de l'univers du roman, avec cet ouvrage intitulé « Les têtes baissées », qui nous plonge un peu dans le quotidien des employés d'abattoirs. Pourquoi avez-vous décidé de vous essayer, justement, à ce genre?
C'est d'abord mon éditeur, avec qui j'avais bossé sur un précédent bouquin qui s'appelle Fukushima, qui était vraiment un récit journalistique. Et il m'a dit un jour, vas-y, lance-toi. Et il m'a donné 3-4 conseils, ça a duré 10 minutes. Et ce challenge, je me suis dit, allez, on fonce.
Et vous avez pris du plaisir?
Et il m'a fait confiance, j'ai pris un plaisir, mais que j'imaginais même pas, en vérité, qui est à la fois très loin et très proche du journalisme quand même. Mais oui, ce sentiment de liberté de pouvoir écrire absolument tout ce qu'on veut avec une page blanche et d'être seul face à ce plaisir-là, c'est un plaisir très égoïste, ça m'a transporté ailleurs encore. C'est comme un nouveau continent, qui n'est pas un continent journalistique, mais... Et puis surtout, sur le fond, ce que je voulais quand même raconter, c'est que, alors certes, ça ne donne pas envie à première vue, on parle d'un abattoir, on parle de conditions de travail qui sont épouvantables.
Beaucoup de sang aussi, hein.
Beaucoup de sang, bien sûr, mais cette violence-là, moi, je me questionnais sur le fait que quand on la subit au quotidien, comment on la restitue? Est-ce qu'on peut la restituer? Là, je suis avec des hommes et des femmes politiques qui savent brillamment s'exprimer. Quand on n'arrive pas à exprimer la douleur, la souffrance, la violence qui est incalculable, comment on fait avec ça? Et cette question-là, je n'ai toujours pas la réponse, mais Voilà, j'ai creusé autour de cette question et ça me fascine.
Inspiration, vous avez fait une enquête un peu journalistique aussi pour vous documenter.
Ce sont d'abord des terrains que je connais. Moi, j'ai grandi en Bretagne, dans un département où il y a énormément d'abattoirs, dont beaucoup ferment aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose que je connais. Et je connais des personnes qui ont bossé, qui se sont abîmées longtemps, qui sont héroïques à tout point de vue. Et quand je compare ça avec la bataille politique d'aujourd'hui, moi, j'y vois beaucoup de résonance. Je considère que le bouquin que j'ai écrit, c'est un bouquin politique parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'exprimer. Et quand on s'exprime, c'est avec quel mot pour dire quoi ? Et il y a des combats qui sont mis sur la table, d'autres qui ne le sont pas aujourd'hui. Et je considère que les conditions de travail dans les abattoirs, ça fait partie de ces thématiques qui disent beaucoup de la France qui se bat en tout cas, c'est certain.
Bah, vous allez peut-être devoir vous battre encore un petit peu, François-Xavier Ménage, avec nous, parce qu'on va aborder une dernière rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». Alors, en toute franchise, c'est notre nouvelle rubrique, je vous donne un petit peu les clés. On va vous poser une série de questions, l'idée c'est que vous y répondiez comme vous l'avez fait jusqu'ici, avec le plus de cœur possible. Alors, la première question qu'on voulait vous poser, quel est votre plus beau souvenir de votre carrière ?
Alors là, vous allez vraiment vous foutre de moi, mais la vérité est celle-ci. Fukushima. Parce que quand le tremblement de terre et le tsunami sont arrivés au Japon, on était dans un avion, on ne savait pas ensuite... je travaillais pour BFM à l'époque, qu'on allait en plus rencontrer une catastrophe nucléaire. Et ça m'a obsédé, ça m'obsède toujours. Je passe mon temps à dire que j'ai laissé une partie de mon cerveau là-bas. Et il m'est même arrivé de me barrer en vacances dans la zone rouge. C'est vous dire à quel point j'ai besoin de comprendre ce qui se passe là-bas. C'est une obsession. Voilà, c'est une obsession journalistique. Ouais, même encore aujourd'hui. Malheureusement, là, aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas rentrer au Japon. Mais dès que c'est possible, moi, j'y retourne. Voilà, je vous le dis, c'est le moment journalistique qui m'a le plus avalé. Voilà, c'est le mot.
Quel est votre pire souvenir maintenant ?
Pire souvenir qui s'est transformé en meilleur souvenir, Capital. Je présente donc l'émission et on décide de faire des sujets d'une dizaine de minutes que je vais signer moi-même. J'arrive à Londres, j'avais entre guillemets moi-même calé des interlocuteurs, c'était pour parler de ces contrats de travail où vous bossez parfois une heure par semaine. Donc c'est l'ultralibéralisme à la sauce Grande-Bretagne. Et j'arrive là-bas et en fait tous mes interlocuteurs me disent en fait non. Eh ben, j'ai fait du casting sauvage dans la rue et je suis tombé sur une femme incroyable qui nous a raconté son quotidien en bossant 2 heures par semaine. Elle travaillait, elle avait un contrat, nous l'a montré, 2 heures par semaine. Et voilà, on en revient au terrain, mais ce qui était au début très compliqué s'est révélé à la fin un exercice sympa. Voilà.
Est-ce que vous avez une manie ou un toc lorsque vous êtes en reportage ? Est-ce que vous avez des superstitions particulières ou pas du tout ?
Non, j'avoue, franchement, j'adorais vous répondre à un truc intelligent, ou alors je ne m'en rends même pas compte moi-même, mais je ne crois pas avoir de toc. Non.
Parfois, des reporters ont toujours peur que la caméra ne filme pas, donc ils vont regarder 20 fois si c'est allumé. Non, rien de tout ça.
J'ai peur de perdre mon cahier, parce que alors, moi, je suis vraiment old school, j'écris tout sur un vieux cahier Moleskine qui est complètement défoncé de partout. Donc ça, ma crainte, c'est de le perdre. Je l'ai perdu une fois à l'Assemblée, il y a très longtemps, et je ne l'avais jamais retrouvé, ça a été un drame, parce qu'il y avait plein de numéros de téléphone dedans. Donc voilà, mon côté old school pourrait me rejouer des tours, mais pour l'instant, il est précieusement dans mon sac à dos, là.
Si vous n'aviez pas été journaliste, quel métier vous auriez aimé exercer ?
Alors, petit, je voulais être, je vous fais la liste entière.
Hein. Ah bah oui.
Avocat, cuisinier, pharmacien, enfin bref, tout sauf journaliste. Et aujourd'hui, vous me demandez de faire autre chose, je pense que je serais incapable de vous répondre. Ouais.
Allez, une question qui est de circonstance, j'ai envie de vous dire. Vous savez que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois, vous êtes bien placé pour le savoir, François-Xavier. Admettons, vous êtes à la tête de l'État, vous êtes le nouveau président de la République.
Bah, allons-y.
Voilà, ouais. Allons-y, faisons de la fiction. Quelle est la première mesure que vous souhaitez prendre ?
Waouh.
C'est un engagement particulier, en fait. C'est un peu la question, quoi.
Je suis incapable de vous répondre. Et puis surtout, je ne m'attendais pas à ce que vous posiez cette question-là.
De manière avancée.
Sur les promesses, je vais laisser ça à ceux dont c'est le métier. On surveillera. On surveillera, en revanche, les promesses, si elles sont tenues ou pas. Je pense que c'est la seule chose que je peux faire. Ouais.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et votre apparence physique ?
L'apparence physique, pendant longtemps, mais comme beaucoup qui bossent en télé, on a un petit rapport conflictuel avec soi-même. Moi, je ne le regarde plus. Comme ça, au moins, maintenant, c'est fini.
Non, jamais terminé. L'image.
Ça ne m'intéresse plus parce que, de toute façon, on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, ouais. Et pour le reste, je pense que je suis entier. Je ne suis pas du tout quelqu'un...
Je ne suis pas du tout
colérique. Non, mais parfois, soyons honnêtes, c'est vrai que sur le terrain, je suis très vite, je m'emballe, je vis les choses pleinement. Et c'est vrai que c'est important d'avoir le recul. Et ça vient au fur et à mesure de se dire, oui, comme un fil. pour retirer un petit peu, se retirer soi-même d'une scène qu'on est en train de vivre en tant que journaliste, c'est important. Donc parfois dans ma tête, je me dis tiens, oublie pas de tirer le fil pour prendre un petit peu de recul, comme dans les bouquins de Kundera. Et voilà, j'essaye de me poser cette question-là à moi-même aussi parfois. C'est des petits dialogues internes, hein, finalement, quand on est sur le terrain en tant que journaliste.
Allez, une dernière question en musique. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ?
Mais alors moi, vous allez rigoler, j'adore le rap américain qui tâche. Donc, bien sûr, je suis un fan de Drake. J'ai même bossé pour de la presse musicale il y a un long moment quand je payais mes études à Paris. J'adore le rap américain, donc je vous répondrai Drake, je vous répondrai sinon la soul, Motown, les années 70 que j'adore. Et ouais, Drake, le premier titre de Drake quand il a commencé sa carrière de rap, c'est ça que j'adore.
Ça, vous êtes un amoureux du rap. Merci pour ça, Xavier Médel.
Merci à vous.
Merci pour votre franchise. Je rappelle que TF1 diffuse le deuxième épisode de la bataille de l'Elysée. C'est ce lundi soir à 23h10, donc sur TF1. Merci,
merci à vous. À ce soir.
On vous regardera, parce que nous, on l'a déjà vu, mais on regardera pour le plaisir. Ce soir, merci Sarah pour les questions internautes et les news médias. Et nous, on se retrouve demain avec une chroniqueuse qui officie dans Touche pas à mon poste sur C8. Elle sort un livre en lien avec Jean-Pierre Bacri. C'est son autobiographie intitulée Le bougon gentilhomme. Il s'agit de Valérie Benaïm que nous recevrons demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.